La mi-journée, midi 2, on passe à toute l'info après de chez vous et c'est avec Fabien Gazot. Bonjour Fabien.
Bonjour David, bonjour à tous. Une grande partie de cette édition sera consacrée aux élections législatives qui ont vu en Deux-Sèvres la réélection des trois députés sortants, Jean-Marie Fievé, Delphine Bateau et Bastien Marchive. Dans le reste de l'actualité, 6 semaines de déviation en raison des réparations du pont de Thouars à partir de lundi prochain. Un pont qui voit passer 18 000 véhicules par jour. Et puis Sébastien Bichon en conférence et en intervention mardi et mercredi dans le bocage bressuirel, le médaillé paralympique évoque son parcours hors du commun. En Deux-Sèvres, les trois députés sortants ont donc conservé leur siège dans la troisième circonscription. Jean-Marie Fievé pour le groupe Ensemble reste député en battant Philippe Robin. Dans la deuxième circonscription, Delphine Bateau pour le Nouveau Front Populaire devance la candidate RN Mélodie Garou. Et puis dans la première circonscription, celle de Niort, Bastien Marchive, issu du camp présidentiel, remporte la triangulaire devant Nathalie Lanzi du Nouveau Front Populaire et Dorothée Champeau du RN. Sur le nord de Sèvres, Jean-Marie Fievé est donc réélu avec un score de 58,07%. Écoutez sa première réaction hier soir au micro de Jacqueline Pinon.
Une claque, je suis content de le dire, c'est une claque qu'ils ont pris là. Ils se voyaient déjà Premier ministre à refaire le monde. Et aujourd'hui, je suis heureux que pour la France et pour l'Europe, que le RN ne soit pas, RN et ceux qui les composent, qui sont approchés d'eux, ne puissent pas mettre en œuvre leur projet qui était très dévastateur pour la France. Et je pense que quand on refuse un débat, si on n'a rien à faire en politique, en fait, il vaut mieux faire autre chose.
Madame le maire de Bressuire, tout à l'heure, soulignait quand même le fait que de ne pas oublier que Philippe Robin était arrivé premier au premier tour.
Oui, bien sûr, mais elle a raison. Effectivement, les gens ont voté massivement pour le candidat du Rassemblement National Ciotiste du Nord de Sèvres. Il faut jamais l'oublier. C'est pour ça que j'ai bien dit à l'instant, j'étais le député de tous les citoyens du Nord de Sèvres et pas seulement que ceux qui ont voté pour moi, bien sûr, de tout le monde. Que je disais souvent, ma permanence c'est la maison du peuple, donc effectivement il faut savoir écouter tout le monde et savoir répondre à cette peur. Il faut bien l'écouter et bien l'entendre pour justement faire évoluer les choses dans le bon sens, pour répondre à cette sollicitation de la population.
Et cette coalition républicaine qui était appelée de ses voeux par beaucoup?
Écoutez, moi je suis tout à fait dans mon objectif à moi depuis 2017, justement qu'on puisse échanger tous ensemble autour d'une table pour faire avancer dans le bon sens de la population, des citoyens. Et ça, ça me convient. J'espère qu'on ira, que tous les bords politiques se mettront autour d'une table pour justement qu'on puisse avancer réellement dans cet objectif de répondre à la sollicitation des Français.
Mais c'est le moment où jamais tirer les leçons.
Ah, c'est le moment où jamais tirer les leçons.
Jean-Marie Fievé réélu donc sur le nord de Sèvres, Philippe Robin battu sur cette circonscription avec un score de 41,93%. L'intéressé qui a créé l'émoi en Bocage-Bressuirais en tournant le dos à ses amis républicains pour se tourner vers le RN réagissait hier soir sur Colline, Philippe Robin.
Je suis surpris sans être surpris, compte tenu qu'au niveau national, il y a une recomposition qui s'est effectuée d'horizon jusqu'à M. Poutou, et on pouvait s'attendre effectivement à avoir une mobilisation d'abord des électeurs, donc c'est quand même une bonne chose, hein, c'est la démocratie, et puis donc un report très important sur le nom de M. Fievé. Bon, bah, écoutez, en démocrate que je suis, je prends acte et je lui souhaite bonne chance pour cette nouvelle mandature.
Alors, vous êtes arrivé au premier tour avec 35% en tête dans cette circonscription. Est-ce que vous avez espéré franchir le second tour et devenir député du Nord de Sèvres, Philippe Robin?
Écoutez, il y avait plusieurs enjeux. On sortait d'une élection européenne à un seul tour. Donc les gens ont toujours du mal à comprendre pourquoi une députation européenne n'a pas le même type de scrutin que sur la députation de l'Assemblée nationale en France. C'est une évidence que la France est très fracturée. C'est une évidence que la nouvelle Assemblée, j'attends de voir à quoi elle va ressembler. Donc on parlait cette semaine d'un Premier ministre de coalition de droite. On va plutôt parler d'un Premier ministre à venir d'une coalition de gauche. Est-ce qu'il sera LFI? Est-ce qu'il sera PS? Donc j'attends de voir. Je pense que ça va être un exercice compliqué. Et peut-être que d'ici quelques mois, on sera peut-être appelé à revenir aux urnes si effectivement la France n'est plus gouvernable.
Philippe Robin qui se réserve maintenant le droit de réagir après le sort qui lui a été réservé aussi bien au conseil municipal de Bressuire qu'à l'Aglo de Bay où il a été écarté de la vice-présidence. Affaire à suivre. Dans la deuxième circonscription, Delphine Bateau arrive devant largement Mélodie Garou du RN avec 59,21%. Delphine Bateau.
J'avais jamais rassemblé autant de voix au second tour d'une élection législative qui dépasse les clivages partisans, qui a été rendu possible par le rassemblement des forces écologistes et de gauche et déjà des maires sans étiquette au premier tour, mais qui au second tour, je le sais, et le résultat du vote aussi de beaucoup d'électrices et d'électeurs qui ont fait le choix de la République, qui n'ont pas voté pour un programme, mais qui ont fait le choix que notre territoire reste ancré dans les valeurs républicaines et garde une députée qui défend ses valeurs. Dans cet entre-deux-tours, il y a eu vraiment un réflexe démocratique, un réflexe républicain, un réflexe pour les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, et est apparu aussi derrière le vernis de TikTok. Beaucoup ont pris conscience en fait du danger de l'extrême droite. On avait des candidates et des candidats fantômes. On a vu dans beaucoup de circonscriptions en France des candidats au passé peu reluisant, et en fait l'extrême droite n'a pas changé, et donc c'est ça qui a été rejeté puissamment par le pays dans le résultat de cette élection législative.
Delphine Bateau, interrogée chez nos confrères de Gatine. Dans la première circonscription, celle de Niort, Bastien Marchive remporte donc la triangulaire avec 42,27% des voix, 10 points de plus que Nathalie Lanzi, alors que le RN de Dorothée Champeau recueille 25%. Bastien Marchive au micro de D4B.
La première réaction, c'est d'avoir une pensée pour les électeurs qui m'ont porté largement en tête du premier tour avec 42%, plus de 10 points d'avance sur ma principale poursuivante. C'est également un sentiment de fierté d'habiter un département qui a envoyé un message clair, non à la stigmatisation prônée par certains, non à la bordélisation prônée par d'autres, et surtout un grand oui à la République, un grand oui à un député qui soit libre, libre des jeux d'alliances partisanes, et un grand oui à la volonté que j'ai exprimée pendant toute cette campagne de ne pas rentrer dans les jeux des petits partis politiques et de faire en sorte de contribuer à construire demain la coalition qui me semble nécessaire pour continuer de faire avancer le pays. Si on ne le fait pas, c'est les extrêmes, et en particulier le Rassemblement National, qui en finiront renforcés. Les deux Sévriens peuvent compter sur moi pour me battre de toutes mes forces à participer à cette construction qui, je pense, sera dans l'intérêt des Français. Ce que je sais, c'est que il y a déjà un certain nombre de responsables politiques, quelle que soit d'ailleurs leur sensibilité, qui ont annoncé leur volonté de travailler ensemble, main dans la main. Il y en a d'autres qui ont fait un appel à la rue, qui ont fait un appel au blocage du pays, qui nous font croire qu'ils sont majoritaires de manière absolue à l'Assemblée, ce qui n'est pas le cas. S'ils restent dans cette démarche-là, il y a deux solutions. Soit c'est le blocage du pays, soit c'est qu'ils souhaitent continuer à bordéliser, et je le déplore. Ils me trouveront avec d'autres face à eux pour mener ce combat.
Le sentiment était mitigé chez Nathalie Lanzi après la victoire de Bastien Marchive. La candidate socialiste pouvait se réjouir néanmoins d'un nouveau front populaire en tête sur le plan national.
Mais en fait, les gens ont pensé que le seul rempart au Rassemblement National, c'était Bastien Marchive, alors que là, il va se trouver dans un groupe minoritaire, puisque le Rassemblement de toutes les gauches, le Nouveau Front Populaire, arrive en tête. Donc c'est ça que je comprends pas. Donc la petite musique de dire qu'on était les extrêmes, elle a bien fonctionné. J'avais une semaine de moins de campagne. Donc moi, ce que j'en retiens, c'est qu'on n'est pas ridicule, que j'ai bien fait de pas me désister, et que la gauche, elle est solide, et qu'elle est bâtie aujourd'hui une nouvelle espérance sur ce territoire de la Circo 1.
Voilà, vous faites référence à ces résultats nationaux qui placent le nouveau Front Populaire en tête. Satisfaction collective pour vous ce soir?
Oui, tout à fait. Oui. Parce qu'on y a contribué finalement en faisant cette campagne. Donc quelque part, oui. Si, je suis contente. Et bon, maintenant, il ne faut pas décevoir. On va voir ce qui se passe dans les semaines à venir. Mais voilà, on en est là.
Les trois députés sortants réélus donc en Deux-Sèvres, Delphine Bateau, Jean-Marie Fievé et Bastien Marchive, un statu quo qui n'en est pas un, puisque la situation nationale risque bien de rester enlisée dans les prochaines semaines, ce que craint en tout cas le sénateur de Sévrien, le LR Philippe Mouillet.
Je vois difficilement les choses parce qu'il y a un tel éclatement avec des mouvements. Je vois pas trop comment ça peut se réaliser aujourd'hui. Moi, je crois beaucoup plus à un gouvernement plus technique, hein, au regard de ça, parce que même si certains triomphent, à la première décision difficile, on s'en censure et on retombe, sur un schéma de désorganisation. Donc, on voit bien que le système est quand même globalement sclérosé malgré les annonces des uns et des autres. et qu'on est dans l'immobilisme. Donc voilà, donc je pour l'instant, clairement, je ne vois pas comment les choses peuvent évoluer favorablement autour de tout ça. Il n'empêche que là, dans cette situation, le Sénat aura un rôle en tous les cas plein et entier. On regarde notamment du maintien des prérogatives de nos institutions. Quoi.
Les réactions des élus locaux après le deuxième tour des élections législatives, ce sera à suivre dans le journal de 18h ce lundi. La grille estivale attendra demain, avec désormais jusqu'au 24 août 3 rendez-vous quotidiens avec l'info locale 8h, 9h, midi du lundi au vendredi et 8h, 9h, 10h le samedi. Un mot sur la participation pour être tout à fait complet sur ces législatives qui s'est élevée en Deux-Sèvres à 69,42%. Et puis à noter que dans le Choletais, Gilles Bourdulex, le maire qui a rallié le RN, a été largement battu par Denis Masseglia qui obtient près de 66% sous la bannière de la majorité présidentielle. Dans le reste de l'actualité, 6 semaines de déviation en raison des réparations du pont de Thouars, implanté en 1965 avec ses 8 arches qui enjambent le Thouet à 15 mètres de hauteur. Le pont de Saint-Jean de Thouars voit transiter chaque jour 16 000 véhicules, dont 2 000 poids lourds, un peu moins de camions l'été en raison du ralentissement économique. C'est pourquoi la période a été choisie pour l'interdire à toute circulation du 15 juillet au 23 août, comme l'explique Coralie Desnoux, la présidente du département des Deux-Sèvres, interrogée au pied du pont par notre correspondant en Thouarsais, Dominique Hérault.
Le département, en 2024, a décidé d'investir 540 000 euros, 600 000 avec les études, pour réparer le pont. Donc les travaux vont être exécutés pendant la période estivale pour qu'il y ait le moins d'impact possible dans la vie économique du territoire. Les déviations sont mises en place. Nous devons bien évidemment la fluidification du trafic, mais également sa sécurisation, et c'est ce que nous faisons là. Le département a travaillé avec la ville de Saint-Jean-de-Thouars et Thouars, également en concertation avec les entreprises du secteur pour qu'elles soient le moins impactées et qu'elles puissent s'organiser en fonction de la fermeture de ce pont qui vraiment fait partie de l'axe donc principal hein, du département, la Sévrienne. C'est un axe très important économiquement et puis dans la vie de tous les jours pour les Thouarsais.
L'effondrement du pont de Gênes en Italie il y a quelques années a marqué les mémoires et dans les Deux-Sèvres, le département surveille 730 ponts avec acuité pour déterminer les actions à prévoir. Les précisions techniques nous sont apportées par Philippe Brémond, élu chargé des voiries.
Les travaux consistent à reprendre la couche de roulement pour étanchéifier complètement le pont, reprendre d'éventuelles infiltrations, la reprise des garde-corps, c'est des remises en état des garde-corps avec remise en peinture, donc qui va nécessiter des grandes protections en termes environnementales, le remplacement des joints de dilatation qui permettent effectivement au pont de bouger en fonction des températures, la reprise des éclats de béton et d'assurer la protection des aciers par l'injection de produits et reprise des bétons, et bien sûr une peinture générale qui va, elle, assurer l'étanchéité de l'ensemble des piles du pont.
Il était en souffrance ce pont?
À partir du moment où on détecte des désordres sur le pont, évidemment on ne prend pas de risque et on programme les travaux nécessaires. Donc c'est pour ça que je vous disais que les défauts avaient été identifiés en 2022. Donc vous voyez, le temps de l'organiser, de le mettre en programme et bien sûr de mettre les finances en face. Non, il n'y a pas d'inquiétude, mais ça nécessitait de reprendre des désordres.
Ces travaux de sécurisation interdisent donc toute circulation. C'est pourquoi, alors que les voitures trouveront des voies de délestage, les poids lourds seront astreints à des déviations du 15 juillet au 23 août. Pendant 6 semaines, leur transit s'effectuera entre Bressuire et Argentonnet d'un côté et Parthenay, Hervaux, Marne de l'autre. Marne où précisément la population est déjà hérissée par le passage de la circulation ordinaire des poids lourds. Mais là, c'est une autre histoire. Reportage de Dominique Hérault. Dans l'actualité sportive, la sélection d'Hugoët pour les Jeux Olympiques de Paris a été confirmée par le Comité National Olympique et Sportif. Une sélection attendue puisque le coureur du SBAC avait réalisé depuis près d'un an maintenant les minima requis pour s'aligner sur le 5000 mètres, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Rendez-vous donc le 7 août pour le premier tour du 5000 mètres au Stade de France. Anthony Boutin et Virginie Allot s'imposent sur le 27 km des Chemins du Roi. Le 15 km est remporté par Vincent Bernard et Lucille Richard. Le 9 km revient à Lucas Papeau et Cindy Picard. Puisque l'on parle de trail, saluons la grosse performance de Baptiste Chebroux, le licencié de la toute jeune asso. Les ATM se classent 3e de la Démoniaque à Pouzauges. Une course par élimination d'élimination sur 24 heures. Il faisait partie des 6 infatigables qui ont terminé les 24 boucles de 6 km 700 avec 180 mètres de dénivelé à chaque fois. Une démoniaque remportée par Nicolas Lenocher. Sébastien Bichon en conférence ce début de semaine sur le bocage bressuirais, médaillé de bronze aux Jeux paralympiques de Sydney en 2000. Sébastien Bichon viendra parler de son handicap et de son parcours. Un témoignage sur le dépassement de soi, car cet amputé tibial dès l'âge de 4 ans, originaire de Coulon, ne s'est pas contenté de sa médaille olympique. Il a depuis relevé des défis sportifs qui sont autant d'exploits. Sébastien Bichon.
Un accident à la ferme familiale, j'avais 4 ans et je suis tombé devant une machine qui m'a coupé la jambe. Donc quand je dis couper la jambe, c'est seulement au niveau tibial, je dis seulement parce que j'ai mon genou et ça fait toute la différence entre être amputé tibial ou fémoral. Quand on a son genou ou pas son genou, dans la vie de tous les jours, c'est plus simple d'avoir son genou.
Vous en parlez comme d'une péripétie, mais enfin bon, c'est quand même un sacré handicap hein, quand on a 4 ans.
Oui, mais après, à 4 ans, on se pose beaucoup de questions. La situation, elle est comme ça, ben, on avance quand même. Le fait d'être dans cette situation si jeune fait que je m'en suis plutôt bien sorti et que c'est quasiment comme si j'étais né avec, et c'est devenu quelque chose qui pour moi est très fluide. J'ai une prothèse, ok, mais la prothèse fonctionne bien, donc je peux avancer, je peux faire ce que je veux. Et c'est un handicap qui paraît lourd comme ça en apparence, mais qui n'est peut-être pas autant que certains qui ne sont pas visibles, parce qu'il y a beaucoup de handicaps invisibles, ou bah, dans la vie de tous les jours, c'est peut-être plus compliqué à vivre que ce que je vis. Donc tout est relatif, hein, ça dépend vraiment de ce qu'on peut en faire derrière, quoi.
Et Sébastien Bichon, 52 ans aujourd'hui, a donc bien avancé avec deux fronts, une carrière de sportif, une carrière professionnelle et puis la vie de famille avec 3 enfants. La médaille de bronze aux Jeux de Sydney a constitué le Graal. Sont venus beaucoup plus tard l'ascension du Mont Blanc, la Born to Ride de 1200 km en vélo avec un final dans les Pyrénées. Des défis sportifs qui sont autant d'exploits, mais revenons sur cette journée de 2000 qui a fait de lui un médaillé paralympique.
Quand on est sportif, c'est vraiment le Graal, participer aux Jeux, que ce soit olympique ou paralympique, bah oui, c'est l'objectif de tout sportif. Enfin, quand on a un certain niveau, voilà, on en rêve, on a envie d'y aller, et puis non seulement on a envie de participer, mais si on peut ramener une médaille, c'est top. Donc oui, évidemment, ramener une médaille aux Jeux paralympiques, oui, pour moi, c'est le Graal en termes de sportif compétiteur, évidemment. Mais c'est vrai que ça m'a pas empêché de vivre d'autres aventures derrière. Mais clairement, oui, le Graal, dans le sens où c'est, voilà, on sait toute l'énergie qu'on a mis, tous les efforts qu'on a fait, tous les sacrifices qu'on a pu produire, et bah, arriver à avoir une médaille, bah, c'est vraiment une super récompense.
Alors, racontez-nous comment ça s'est passé le jour J. C'était ouais. Comment cette course?
Bah, c'est une course déjà très très particulière, dans le sens où justement l'enjeu est énorme pour tout le monde, donc on est assez prudent, on se découvre mais pas trop, on est hyper attentif quand il y a un échappé, on va le chercher, voilà. Et puis bah, c'est une course qui est quand même assez sélective, avec une bosse qui fait la différence, où les moins costauds ne restent pas à suivre. Et puis surtout l'arrivée se fait au sprint, on est encore une douzaine de coureurs, et quand je franchis la ligne, je ne sais pas si je suis troisième ou quatrième, c'est-à-dire médaillé ou pas médaillé. Donc ça, effectivement, ça change tout, et c'est la photo finish qui a pu nous départager. J'ai bien fait de rien lâcher, puisque l'Allemand a fait l'erreur, lui, de se relâcher avant de franchir la ligne d'arrivée, persuadé d'amener la médaille de bronze, sauf que moi je termine fort, je termine en boulet de canon et je le coiffe au poteau. Et donc bah, pour moi c'est un super message, parce que dans la vie c'est clair que quand on veut obtenir quelque chose, quand on veut réussir, bah, si on baisse les bras avant d'arriver, bah, c'est dommage, on loupe l'occasion de réussir.
Tout le monde est capable de relever des défis, estime Sébastien Bichon. Tout est affaire d'entraînement et de force mentale. Il sera en conférence mardi 9 juillet, demain donc à 10h au Clos de la Girennerie à Noël-les-Aubiers, puis à 15h à la bibliothèque de Cerizay et à Bressuire le mercredi matin pour une intervention au vélodrome du quartier de Valette avec le CSC de Bressuire.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Très nuageux le ciel cet après-midi, mais sans pluie. Sur le Bocage et le Thouarsais, un peu plus ensoleillé. Sur la Gâtine et le sud de Sèvres, ce sera plus dégagé en soirée sur l'ensemble du département, même si le ciel reste voilé. Les températures sont annoncées de 27 à 29 degrés cet après-midi. Demain, le temps reste assez couvert avec un risque d'orage en matinée pour le nord du département. Mercredi s'annonce assez agréable avant une fin de semaine à nouveau instable. Je vous donne donc rendez-vous ce soir à 18h pour le dernier rendez-vous de la journée avec l'info locale. Bon après-midi.